Il est 5h sur Europe 1.
Je ferais juste, s'il y a ces difficultés, c'est parce qu'il y a une guerre contre l'islamisme radical et il y a une guerre de l'État contre les trafics de stupéfiants. Et nous devons gagner cette guerre.
Gérald Darmanin contraint d'envoyer des renforts à Fréjus après des violences contre les forces de l'ordre dans la nuit de samedi à dimanche. Par ailleurs, 4 jours après le meurtre d'un policier à Avignon, 2 suspects ont été arrêtés hier soir. On y revient dans quelques secondes. La difficile préparation des élections du mois de juin. Il faut trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. À Perpignan, on se prépare à les payer jusqu'à 300 euros. Et puis certains s'étaient précipités pour retirer tout leur argent à la banque. On vous racontera comment des Français fortunés et inquiets de la victoire de François Mitterrand, avaient voulu évacuer leurs économies en Suisse.
À suivre les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette. Nous serons en Normandie ce matin chez notre éleveuse. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'information de la nuit. 2 suspects ont été arrêtés hier soir dans l'enquête sur le meurtre du brigadier de police Éric Masson, tué par balle mercredi lors du contrôle d'un point de deal. Guillaume Biais, ces arrestations ont eu lieu à 20 kilomètres d'Avignon.
Oui, et c'est parce que ces deux hommes s'apprêtaient à prendre la fuite, sans doute vers l'Espagne, que les policiers sont intervenus de nuit. Vers 22h30 hier soir, ils les ont interceptés sur l'autoroute, à 20 kilomètres d'Avignon, alors qu'ils roulaient en direction du sud. Les policiers d'élite des BRI de Marseille et de Montpellier, qui les avaient placés sous surveillance, les ont arrêtés au niveau d'une barrière de péage. Ces deux hommes sont soupçonnés d'être directement impliqués dans le meurtre du brigadier Éric Masson. L'un d'eux pourrait être le tireur et l'autre son complice présumé. Deux hommes qui étaient très activement recherchés depuis 4 jours par une 100 d'enquêteurs de la police judiciaire. Alors ce matin, on ne connaît pas encore le profil de ces suspects, mais on sait qu'ils sont déjà connus des services de police. Ils viennent de passer la nuit en garde à vue et doivent répondre aux accusations de meurtre sur un policier, un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les toutes premières précisions de Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1.
Une nuit de chaos samedi soir à Fréjus, dans le Var. Les forces de l'ordre ont été prises à partie par 50 de personnes.
Oui, des violences ont éclaté dans le quartier de la Gabelle. 3 policiers blessés, des véhicules incendiés, des commerces saccagés. Scène de violence auxquelles les riverains ont assisté depuis leurs fenêtres. Le récit de Laura Taouchanoff.
Certains habitants filment la scène. Une rue complètement barrée par des flammes. Quelques minutes plus tôt, la police aurait effectué un contrôle pour trouble du voisinage et non-respect du couvre-feu. Les forces de l'ordre essuient alors des jets de projectiles de dizaines d'hommes cagoulés et masqués. Sur sa route, le groupe met ensuite le feu à 3 voitures, dont une de la police municipale, et saccage une 15aine de vitrines. Il brûle 2 commerces, dont celui de Patrick, le gérant d'un magasin de motos.
J'avais les flammes qui sortaient de mon magasin. Du coup, le magasin est détruit. C'est pas normal que des gens puissent vouloir faire leur loi comme ça.
Et c'est après 3 heures de violence que le calme revient vers 4 heures du matin. Et des scènes de chaos de plus en plus fréquentes, déplore Davido Reverdi, le secrétaire national Provence Alliance Police Nationale.
Il n'y a pas une nuit où il n'y a pas des événements de violence urbaine par cette gangrène qui se croit tout permis. Ils avaient préparé, on va dire, leur coup, puisqu'ils avaient des projectiles à disposition, en nombre extrêmement important.
Des actes en réponse à la lutte contre le trafic de drogue, selon le procureur de Draguignan. Il y a 2 semaines, plusieurs kilos de cannabis avaient été saisis dans ce quartier de Fréjus.
Et vous l'entendiez, hein, le ministre Gérald Darmanin a annoncé hier l'envoi d'une compagnie de CRS, soit 70 policiers en renfort à Fréjus.
5h04 sur Europe 1, les soignants en première ligne vont-ils enfin pouvoir se reposer et partir cet été?
Oui, si la situation épidémique va mieux, les épidémiologistes craignent un rebond, voire une 4e vague, avec la réouverture des terrasses, des commerces non essentiels et des lieux de culture. Victor Delande, une chose est sûre, les soignants ont vraiment besoin de repos.
Oui, ils ont déjà dû reporter leurs vacances de la Toussaint, ils n'ont pris que quelques jours à Noël, ils ont fait une croix pour certains sur leurs vacances d'hiver, de Pâques, et ces derniers mois, ils ont enchaîné les heures supplémentaires et les gardes. Pour Antoine Villard-Baron, chef du service réanimation à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, cette situation ne peut plus durer.
Il faut que les personnels se reposent et fassent une vraie coupure. C'est indispensable, sinon de toute manière, clairement, on ira dans le mur. Et donc, il faudra trouver des solutions s'il devait y avoir une reprise.
Jean-Michel Constantin, chef de la réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est sur la même ligne. Il organise déjà les plannings de cet été et accorde les congés à ses équipes.
On essaie de tout faire pour, même si souvent, c'est associé à une petite augmentation de travail deuil pour ceux qui restent. Mais à partir du moment où il y a un peu de perspective et où on voit le bout du tunnel, ben, je crois que chacun est capable de travailler un peu plus pour qu'il y ait une partie de l'équipe qui parte en vacances en se disant que ce sera chacun son tour.
Pour libérer du personnel, il sait aussi qu'il devra fermer des lits cet été. Et comme la plupart de ses collègues, il croise les doigts et compte sur les Français pour qu'ils ne relâchent pas trop vite leurs efforts au moment de la réouverture le 19 mai.
Victor Delande, tenir un bureau de vote contre rémunération, c'est ce que va proposer la municipalité de Perpignan à l'occasion des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains. 600 personnes sont nécessaires pour tenir les bureaux de vote de la ville et les rémunérer, c'est visiblement la seule solution, comme le disent les élus à Benjamin Péter.
C'est une situation exceptionnelle qui malheureusement amène des mesures exceptionnelles.
Organiser deux élections le même jour tout en assurant la sécurité sanitaire des électeurs. Pour le premier adjoint Charles Ponce et la majorité RN de Perpignan, la seule solution c'est de doubler le nombre de bureaux de vote. Il leur faut donc 608 citoyens pour les tenir dans toute la ville. Élus et fonctionnaires ne suffisent pas. Ils vont donc proposer jusqu'à 300 euros pour un président ou un secrétaire de bureau.
Déjà en temps normal ce n'est pas évident, mais là nous devons donc doubler le nombre de bureaux de vote, ce qui nous donne un mal fou à trouver le bon nombre de personnes. On préfère passer par ce système-là. On n'en est pas ravis, il ne faut pas se leurrer.
Jean-Marc Pujol, l'ancien maire aujourd'hui dans l'opposition, reconnaît que trouver du monde pour tenir ses bureaux de vote a toujours été un casse-tête. Mais pour lui, en venir à les payer, c'est la preuve d'un délitement de la vie civique.
Pour une grande partie à Perpignan, c'était des militants des Républicains, des centristes qui participaient au bureau de vote. Ceux qui veulent donner des leçons aujourd'hui ne sont pas capables de mobiliser leurs militants, sauf pour les payer, ce qui est très très loin des valeurs de la République.
Alors la ville espère attirer des étudiants moins à risque et qui pourraient avoir besoin d'argent. Un vrai recrutement puisque les candidats devront envoyer CV et lettres de motivation. À Perpignan, Benjamin Péter, Europe 1.
On continue de parler politique mais avec un regard dans le rétroviseur. Il y a 40 ans, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir.
Et la panique, il faut bien le dire, dans certains milieux économiques qui n'y avaient pas cru. L'arrivée au pouvoir de la gauche a créé un quasi-mouvement de fuite chez les chefs d'entreprise et chez des notables de la finance, plutôt ancrés à droite, lors d'Autriche.
Quelques heures après l'élection de François Mitterrand, des Français fortunés, affolés, sortent des banques avec des valises et des sacs poubelles pleins de billets. Certains partent en voiture en Suisse mettre leur argent à l'abri, craignant de voir Mitterrand tout nationaliser et confisquer leurs biens. À la frontière suisse, les douaniers saisissent alors des sommes colossales, raconte à l'époque le journaliste d'Europe 1, Henri de Stadelhoffen.
Le butin qu'elles ont récolté dans la seule journée d'hier est édifiant. Près de 9 millions de francs dissimulés dans 3 autos. Et quant aux cachettes, m'a révélé un spécialiste, nous les connaissons bien. Derrière le radiateur, dans le capitonnage des sièges, dans les enjoliveurs de roues, nous avons aussi découvert des rouleaux de billets enroulés dans du plastique autour de la jauge d'huile.
La bourse de Paris est secouée, le cours du franc suisse s'emballe. Une partie des Français ancrés à droite craint aussi l'arrivée de ministres communistes au gouvernement, comparés alors à des bolcheviks qui débarqueraient à Paris. Mais le premier gouvernement de François Mitterrand ne comptera finalement aucun ministre communiste.
Et on en parlera de cet anniversaire des 40 ans et de la gauche d'aujourd'hui avec Julien Drey tout à l'heure qui sera mon invité à 6h40. L'actualité des livres aussi sur Europe 1 et on appelle ça un fond de tiroir ou un trésor oublié. C'est selon des manuscrits pas tout récents qu'on redécouvre.
Et oui, Pierre Lemaitre et Tatiana de Ronay, deux écrivains reconnus, on peut le dire, publient cette semaine leur premier texte qui n'avait jamais été édité. Nicolas Carreau.
Le serpent majuscule, c'est le nouveau Pierre Lemaitre qui sort mercredi chez Albin Michel, nouveau avec beaucoup de guillemets puisqu'il s'agit en fait de son plus vieux, un roman de jeunesse jamais publié, son premier roman noir. Idem pour Tatiana de Ronay qui publie Célestine du Bac chez Robert Laffont, un vieux manuscrit retrouvé par l'écrivaine en rangeant sa cave.
Je tombe sur un carton où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs ». Et en fait, c'est un carton où j'ai rangé tous les manuscrits que j'ai pu écrire entre l'âge de 10 et 30 ans. Et là, je vois un manuscrit papier qui me tend les bras, Célestine du Bac. Je le lis, je le trouve très sincère et je me dis, bon, je vais le donner à mes éditeurs parce que je n'arrive pas à juger et c'est eux qui vont juger.
Écrit entre 90 et 93, le roman raconte l'histoire de Martin, 18 ans, un peu paumé, qui se lie d'amitié grâce à la littérature avec Célestine du Bac, une vieille clocharde de la rue du Bac à Paris. L'écriture, le style ne ressemble pas tout à fait à Tatiana de Ronay, c'est une autre écrivaine que l'on découvre.
Nicolas Carreau.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 5h10. Et bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports ce matin avec à la une un PSG grimaçant qui laisse filer 2 points dans la course au titre.
Oui, c'est vrai que le match nul hier soir entre Rennes et le PSG, 1-0, ne satisfait personne et encore moins les Parisiens. Ils ont désormais 3 points de retard sur le leader de Ligue 1, Lille, à 2 journées de la fin du championnat. Rennes, en égalisant, a limité la casse mais reste à 1 point de Lens et Marseille dans la course à l'Europe. L'entraîneur rennais Bruno Genesio était donc un poil déçu à l'issue de cette confrontation avec le PSG.
L'objectif c'était de gagner parce que on avait besoin des 3 points pour reprendre notre destin en main, ce qui n'est pas le cas en prenant 1 point ce soir. Par contre, bien sûr, il y a de la fierté aussi d'avoir vu mon équipe, mon groupe se comporter comme elle s'est comportée ce soir, à la fois dans l'état d'esprit mais aussi dans la qualité du jeu qu'elle a produit.
Bruno Genesio hier soir au micro européen de Stéphane Beignet. Le PSG qui n'a plus que 2 points d'avance sur Monaco, qui a retrouvé hier la 3e place du podium de Ligue 1 en s'imposant à Reims sur le fil 1-0. Reims, prochain adversaire du PSG.
Marseille, 5e du championnat, s'est fait surprendre hier par Saint-Etienne.
Oui, de quoi rendre maussade l'entraîneur argentin de l'OM, Jorge Sampaoli.
On a surtout, je pense, perdu la première mi-temps. C'est ce que je vois de mon côté. J'ai trouvé que c'était vraiment une première mi-temps très pauvre. L'équipe doit vraiment avoir conscience du fait qu'on arrive à la fin de saison et que, quelles que soient les circonstances individuelles, on doit jouer le futur du club et qu'on n'est pas là dans l'intérêt personnel mais dans l'intérêt de l'équipe et que vraiment, si on veut jouer l'Europe, c'est la responsabilité de chacun. Mais moi, je trouve vraiment que la première mi-temps de mon équipe n'a pas été à la hauteur.
Marseille, 5e du championnat ce matin. Propos recueillis par notre correspondant Anthony Perel.
Dans le reste de l'actualité sportive, sort Lewis Hamilton, roi d'Espagne.
Le pilote Mercedes a remporté une 98e victoire sur le circuit de Barcelone. C'est sa 5e consécutive en Espagne. Les Français Ocon et Gasly ont terminé 9e et 10e. Coup de chapeau aux handballeuses nantaises qui ont remporté hier la Ligue européenne. Premier titre d'une équipe française dans l'histoire du hand féminin. Et puis en tennis, Alexander Zverev, sacré au Masters 1000 de Madrid après sa victoire hier face à l'Italien Berrettini en 3-7.
Pour terminer, la belle histoire du jour nous emmène au Rwanda.
Oui, pour vous parler du Tour cycliste du Rwanda. Alors que le Giro, le Tour d'Italie cycliste, a débuté ce week-end, eh bien cette course, c'est cette course qu'a choisi le coureur Pierre Roland pour lancer sa préparation au Dauphiné et au Tour de France. Décision plutôt original et inattendu, vous en conviendrez. Le grimpeur de la formation BNB Vital Concept s'est offert en prime une victoire en solitaire sur le Mont Kigali. De quoi en garder de sacrés souvenirs, Pierre Roland.
J'avais envie de tenter quelque chose sur un parcours qui me convenait, montée, descente et très peu de transition. Je me suis lancé dans un long raid. La montée finale c'était horriblement dur, quoi. 5 km à X%. Voilà, il était temps que ça se termine. C'était une belle journée à l'avant, tout seul, comme je les aime, le vélo que j'apprécie, et on va pouvoir se tourner vers un retour en France, des stages, le Dauphiné, un schéma de saison un petit peu plus traditionnel, mais voilà, c'était une bonne expérience, c'était un passage intéressant.
Et Pierre Roland, interrogé par Axel May, notre spécialiste cyclisme.
Ah oui, c'est le pays des 1000 collines, oui. Le Rwanda, il y a de quoi grimper à vélo.
Effectivement.
Les sports avec Corinne Boulou, merci. Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et mon pari gagnant sera le 402 Alessandro. Titulaire d'une victoire et de 2 secondes places lors de ses 3 seules tentatives, ce poulain ménager, que je sais estimé par son entourage, fait figure ici de favori solide. Facile à monter et capable d'adopter n'importe quelle stratégie de course, il devrait pouvoir justifier les bruits très favorables dont il fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 2, Alessandro.
Merci à vous Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, il est 5h15 sur Europe 1, bon réveil. Dans l'actualité ce matin, il y a cette nouvelle tribune présentée comme écrite par des militaires mais qui ne disent pas leur nom ni combien ils sont. Tribune publiée par Valeurs Actuelles sous forme de pétition. Il s'agirait cette fois de personnel d'actifs et non pas de retraités. Les auteurs critiquent les dirigeants politiques qui ont laissé s'installer le communautarisme et la haine de la France, disent-ils. Après 7 mois d'interruption du fait de la santé de Bernard Tapie, son procès en appel appel reprend aujourd'hui. Il est poursuivi pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros en 2008. Le projet de loi climat et résilience examiné par les sénateurs aujourd'hui et demain en commission. Le texte a été modifié par rapport à sa version votée par les députés. Et puis en football, Lille prend de l'avance en tête du championnat de France de Ligue 1. 3 points de plus que le PSG qui a fait match nul hier, un partout à Rennes. Europe 1. Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Omblin Roche et Martin Lange. On commence par les unes de vos journaux et c'est une date qui fait la une de la majorité de vos quotidiens ce matin, la date du 10 mai 81. Il y a 40 ans pile, la vague rose, titre La Provence, vous verrez le visage de François Mitterrand à la une un peu partout, dans le Télégramme, la Nouvelle République, la Montagne, le Bien Public, mais aussi des questions. Que reste-t-il du 10 mai 81? Question posée par la Dépêche du Midi, par Sud-Ouest ou encore par le Dauphiné Libéré. Pour le Parisien aujourd'hui en France, c'est surtout l'anniversaire d'une gauche en crise, crise de la quarantaine, écrit Libération, qui se demande aujourd'hui qui veut vraiment souffler les bougies. Les violences à Fréjus sont aussi à la une de Var Matin. Un cap a été franchi, titre le journal. Et après la mort d'un policier à Avignon, un hommage et des arrestations à lire dans Midi Libre. Le Figaro a choisi de s'intéresser à la jeunesse avec ce titre « Génération sacrifiée ». Les 18-25 ans ont du mal à voir le bout du tunnel dans cette crise. Et puis, il y a quand même malgré tout des signes d'espoir. La vaccination qui accélère, c'est-à-dire dans Ouest-France. Et la réouverture des restaurants. Bientôt, on cherche des bras. C'est le titre en forme de petite annonce dans La Voix du Nord. Voici les trois histoires qui, ce matin, donc, nous ont interpellés dans la presse. Omblin, on commence avec vous et avec le prix des voitures électriques.
Oui, bientôt, ce ne sera plus ce prix, justement, qui vous fera hésiter entre une voiture à essence et une voiture électrique. Le Figaro dévoile une étude réalisée par la société de recherche Bloomberg NIF pour l'ONG Transport et Environnement. Et cette étude nous dit qu'entre 2025 et 2027, donc demain, franchement, l'essence et l'électrique coûteront le même prix. Et avant 2030, les voitures électriques seront même moins chères. Les utilitaires légers, comme les Citroën Berlingo ou les Fiat Doblo, seront les premiers à atteindre un niveau de prix équivalent. Viendront ensuite les SUV, les berlines et enfin les citadines. Aujourd'hui, sans tenir compte des bonus et des avantages gouvernementaux, pour vous donner un ordre d'idée, une Twingo 100% électrique est vendue 21 550 euros contre 13 450 euros pour son équivalent thermique. Ça coûte quand même 8 000 euros de plus aujourd'hui une voiture électrique. Cela va changer dans les années, dans les 10 prochaines années.
Ça va même s'inverser.
Exactement. Ce qui va permettre de baisser les prix des électriques, ça va être d'abord la baisse des prix des packs de batteries. Et c'est en cours. Le coût des batteries a été presque divisé par deux entre 2010 et 2020. Et cela va passer aussi par les plateformes industrielles. Elles devront être entièrement dédiées à la construction de voitures électriques. Aujourd'hui, elles sont encore polyvalentes. On fabrique sur le même endroit des électriques et des thermiques. Faire des économies en choisissant la batterie plutôt que le carburant. D'accord, mais on fait comment si on ne peut pas la recharger, cette batterie? C'est encore aujourd'hui l'autre frein dissuasif. Les propriétaires de voitures électriques font la recharge chez eux. On n'a pas tous la chance d'habiter en maison ou sur leur lieu de travail, mais on ne peut toujours pas faire de grands trajets, sauf si on possède une Tesla. La France, comme d'autres pays européens, est clairement en retard sur le déploiement de stations de recharge. Volkswagen, qui a quand même été au centre du scandale des moteurs diesel truqués, est en avance sur les autres, a investi des dizaines de milliards d'euros dans l'électrique. Elle est représentée par la gamme ID. Voilà, les voitures électriques bientôt moins chères que les thermiques. C'est dans le Figaro.
Ouais. Ça, pour se généraliser, c'est ça. Il manque l'autonomie et effectivement les points de recharge un peu partout. Et y compris d'ailleurs quand on habite en ville et dans les immeubles, c'est pas toujours évident.
Non.
Quand on a en tout cas du 100% électrique.
Mais
c'est dans le Figaro. Oui. Autre sujet, on vous avait parlé il y a quelques jours des nouveaux mots entrés dans le Petit Larousse. Eh bien, c'est au tour du Petit Robert de dévoiler son édition 2022. Et le Parisien, aujourd'hui en France, a pu y avoir accès, avec notamment un mot très présent dans l'actualité qui entre, c'est vaccinodrome. C'était pas dans le dico, vaccinodrome.
Bah non,
néologisme qui vient d'apparaître, déjà directement dans le dictionnaire. Centre de vaccination collective aménagé dans un vaste espace. Voilà pour la définition, c'est pas très compliqué. Et le Parisien nous raconte que le mot est apparu en fait en 2009, au moment de l'épidémie précédente, celle de H1N1, mais qu'à l'époque, les fameux vaccinodromes de Roselyne Bachelot n'avaient pas vraiment eu le temps de s'installer parce que la campagne de vaccination s'était vite arrêtée là. Mais cette fois, ce mot est bien présent partout. Le critère, ça a été son occurrence dans les articles de presse, dans les médias, dans les conversations. Alors, il y a quand même eu débat, nous raconte le journal, entre experts linguistes au sein du comité éditorial. Certains redoutant que finalement le mot ne disparaisse aussi vite qu'il est arrivé quand l'épidémie sera terminée. C'est pas complètement impossible. Et finalement, au mois de février, ils ont voté à main levée et intronisé le vaccinodrome, donc qui fait son entrée dans le petit Robert. D'ailleurs, on ne sait pas qui a inventé ce mot en 2009. Il est apparu dans la presse. On ne sait pas qui a eu cette idée-là. Alors, pour le reste, une centaine de nouveaux mots apparaissent. Alors, il y a les anti-vaccins, ou même les anti-vax pour l'abréviation. La bobologie, la biotech, le VPN, l'outil du télétravail, vous savez, c'est le système qui permet de se connecter au réseau de son entreprise. Alors, le VPN est dans le dico. Les évolutions de la société, la transidentité, la déconsommation, le frugalisme. Le shawarma, si vous aimez ça.
Le shawarma.
Le shawarma. Oui, le shawarma de poulet. Le kebab, très quoi.
Ah. Et shawarma.
Voilà, shawarma, c'est libanais. Ouais. Et puis, des mots plus jeunes, vous savez ce qu'est un vlog. Moi, je ne savais pas ce que c'était un vlog.
Est-ce que ça a un rapport avec Internet?
C'est un blog avec une vidéo. Blog.
C'est un blog en vidéo. C'est le blog vidéo. C'est le vlog. Voilà. L'autotune.
C'est... Ah bah oui, ça c'est pour modifier la voix.
Pour modifier la voix des rappeurs et les faire chanter. Et puis mitonner, entre dans le dico. Alors pas mitonner, pas mitonner un bon petit plat, mitonner avec un Y. Mentir, voilà, ça c'est... voilà. Langage parlé.
Il n'y était pas déjà.
Bah non.
Ah bah
non,
d'accord.
Bah non. En tout cas, pas dans le petit Robert. Petit Robert 2022, les nouveaux mots sont à retrouver dans Le Parisien et sur le site du parisien.fr. Martin, c'est à vous.
Oui, et ce matin, je vous parle de la Chine qui s'attaque au gaspillage alimentaire. C'est même devenu une grande cause nationale défendue par Xi Jinping. Les Chinois qui jettent chaque année 35 millions de tonnes de nourriture, ça fait beaucoup. Alors, depuis quelques jours, le Parti communiste est passé à la vitesse supérieure pour traquer les gaspilleurs avec une nouvelle loi qui ne s'embarrasse pas vraiment des libertés individuelles. Elle cible deux phénomènes, les commandes démesurées au restaurant et surtout le food porn, très populaire en Chine. Alors, vous savez peut-être, c'est cette tendance sur les réseaux sociaux où certains internautes partagent des vidéos de véritables orgies culinaires. Ça a un nom en Chine, le mukbang. À cause de ça, des tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Ouais. Eh bien, c'est désormais interdit.
Mais comment démesurer au restaurant et à la fin tout est jeté? Comment les Chinois s'y prennent pour lutter contre ça?
Alors, il y a d'abord les incitations. Pour les restaurants d'entreprise, par exemple, on demande de respecter la règle du N-1, c'est-à-dire un plein de moins que le nombre de convives. Pour les restaurants traditionnels, on suggère gentiment aux cuisiniers de réduire les portions pour réduire mécaniquement les restes. Certains font d'ailleurs du zèle, comme cet établissement de la province de Hunan, qui pèse tous ses clients avant de les servir pour leur proposer un menu adapté à leur poids. Pas sûr qu'on voit ça un jour en France. Alors, après la pédagogie et les incitations, le gouvernement chinois veut aussi punir un restaurant qui incite ses clients à commander des quantités excessives, c'est 1 300 € d'amende. Ouais. Concernant le food porn, les médias qui diffuseraient une de ces vidéos d'orgies culinaires risqueraient, eux, 13 000 € d'amende. Des agents de l'État ont d'ailleurs déjà commencé à retirer des vidéos sur Douyin, c'est le TikTok chinois. Certains opposants y voient un moyen de limiter encore la liberté d'expression et de toujours plus contrôler la population. La Chine interdit les commandes démesurées au restaurant, c'est à lire sur Slate.
Il y a quoi derrière? Il faut afficher l'abondance et c'est afficher...
Je ne sais pas, j'avoue que j'ai regardé ces vidéos de food porn, c'est assez troublant. Mais bon, il y a des gens qui regardent ça. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi.
Voilà, on y reviendra, c'est à lire sur Slate. Merci à vous deux, c'était le pressing du jour, il est 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes dans le Calvados ce matin pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Isabelle de Radiguès.
Bonjour Sébastien.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes notre éleveuse, cultivatrice avec votre fils dans le Pays d'Auge, du côté de Pont-l'Évêque. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vos bêtes vont bien?
Ah oui, tout le monde va bien, on a eu de la pluie.
Ah bah oui.
Non, c'était le bonheur, oui, on aimerait encore un tout petit peu.
Il en manquait, possible. Même en Normandie, il en manquait.
Ah oui, non, c'est des... enfin, Normandie sans pluie, c'est pas la Normandie. La terre était craquelée par endroits.
Ah oui.
Non, c'était vraiment nécessaire. Et ça peut continuer une fois par semaine ou bien toutes les nuits. Alors, c'est pas besoin d'être le jour, ça peut être la nuit.
Oui, ouais, ça nous arrange quand c'était c'est la nuit. Là, il pleuvait cette nuit en tout cas.
Oui, il y a bien plus, oui.
Bon, donc effectivement, je crois que ça va continuer. On va retrouver Laurent Cabrol dans quelques secondes. Il va nous le dire. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment sur l'exploitation?
Alors, je voulais vous parler c'est terminé, enfin j'espère que c'est terminé. On a eu deux contrôles le même jour, la semaine dernière. Alors je dramatise un peu parce que je rajoute les deux. Il y en a un qui était prévu, un qui n'était pas du tout prévu. Mmh. Et enfin, il y a un contrôle sanitaire, et un autre, c'était plutôt dans le cadre des déclarations PAC, de politique agricole commune. D'accord. Mais je vais peut-être parler de la PAC la prochaine fois parce que c'est plus long. Nous, on a eu un contrôle des bovins. Chaque année, on doit faire la prophylaxie, c'est-à-dire une prévention, des prises de sang.
Ouais.
Pour voir si certaines maladies sont trop présentes dans les élevages, et puis il faut prendre des décisions. Et là, malheureusement, et cette année, c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a la tuberculose bovine qui est réapparue dans la région.
D'accord.
Et donc, c'est très embêtant parce que c'est une maladie transmissible à l'homme, contrairement aux autres maladies. Donc, il a fallu faire un petit test, oui. Supplémentaire, c'est-à-dire que le vétérinaire, le docteur Antonot, que vous connaissez, a inoculé la maladie et est revenu le fameux jeudi faire le contrôle pour voir si l'une ou l'autre répondait positivement. Et là, ça aurait été vraiment dramatique parce que si une seule, par exemple, avait répondu positivement, elle était abattue pour être analysée.
Vous n'avez pas eu de cas ?
Mais non, j'avais prévenu, j'avais dit qu'il y en a un, je vais pleurer. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que sinon, c'est assez grave, parce que si une seule est positive, tout le troupeau y passe.
Ah oui.
Et dans la région, il y a un troupeau de 600 bêtes qui ont été abattues.
Donc il y a des cas, dans votre région, et c'est dramatique pour les éleveurs.
Alors ça doit être terrible, vous imaginez, vous avez tout votre cheptel qui du jour au lendemain quasiment est abattu, vous avez recommencé tout au niveau sélection génétique, tout, je comprends leur désarroi.
Tout s'arrête.
Oui, voilà.
Bon, on est soulagé pour vous. Alors, pas de cas de tuberculose bovine sur le troupeau. Merci à vous, Isabelle. À bientôt, Isabelle de Radiguès. On se souvient, vous aviez accueilli le 5-7 chez vous au début du mois de mars. Bah, sachez qu'on va retourner à la ferme. Alors, pas chez vous, on va aller ailleurs. On y sera vendredi. Le 5-7 s'installe dans une exploitation laitière. Cette fois, on sera au pays du Brie, en Seine-et-Marne.
Je vais vous expliquer. Ouais. Oh, c'est délicieux.
Ce sera vendredi. Bon.
Vous écouterez. Merci Sébastien.
À bientôt Isabelle. Il est 5h27 sur Europe 1. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. Shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing rap. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. C'est le nouveau titre de Coldplay qu'on découvre ce matin, Higher Power. Alors, il est sorti vendredi dernier et c'est l'astronaute Thomas Pesquet qui a eu la primeur de le découvrir en avant-première depuis la Station Spatiale Internationale. Il a pu dialoguer avec le groupe Coldplay. Donc pour le lancement de cette chanson, 5h29, Laurent Cabrol, ça y est, hein, ça s'est gâté.
Alors les orages, je le disais tout à l'heure, ont basculé vers l'est. Nous allons les retrouver maintenant sur des régions comme l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur. Toutes ces contrées seront sous un temps agité tout au long de la journée avec des vigilances alors que sur la partie ouest, la même où ils ont sévi hier, ce sera un peu plus calme avec une alternance de nuages, d'éclaircies, mais d'averses, car il ne fera pas beau forcément sur le littoral de la Manche, à Bourgogne, le Poitou-Charentes, la région parisienne, la Champagne, les Ardennes, ce sera pas folichon, mais enfin ce sera moins grave qu'hier. Des régions un petit peu plus, disons, à l'abri, le sud-ouest et le Limousin, mais enfin il y aura quand même aussi des ondées dans ces contrées. Le vent soufflera un petit peu moins fort. Les températures, alors là, c'est spectaculaire, seront vraiment dégringolades. 15 degrés à Brest et Langres de cet après-midi. Hein, 16 degrés à Cognac et Angoulême. 17 à Clermont-Ferrand. Vous voyez que ça baisse vraiment. Hein, 18 à Lyon. 19 à Nancy et Nevers. Ce sera vraiment spectaculaire, cette baisse à Paris, où il a fait 27 hier. Il n'en fera que 20 aujourd'hui. 21 à Strasbourg. 21 à Toulouse. Au meilleur de la journée de ce lundi. Et 25 à Ajaccio.
Ouais, spectaculaire. Merci à vous, Laurent Cabrol. On vous retrouve juste avant 6h. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
L'épidémie continue à régresser. Il est donc très probable que dans les jours qui viennent, le nombre de patients admis en réanimation se réduise encore davantage.
Moins d'admissions, moins de patients en réanimation. Les indicateurs hospitaliers du Covid orientés à la baisse. Et pour que ça dure, la vaccination sera essentielle. Elle est ouverte dès aujourd'hui aux personnes de plus de 50 ans. C'est l'information de la nuit. L'arrestation de deux suspects dans l'enquête sur le meurtre du policier d'Avignon la semaine dernière. Des policiers dont les syndicats seront reçus aujourd'hui par Jean Castex. Il dénonce la banalisation de la violence à leur égard. La sale semaine du PSG après l'élimination en Ligue des Champions. Paris a-t-il laissé filer le titre en championnat ? Match nul hier soir, un partout contre Rennes.
Après le journal, la vaccination qui s'élargit et un outil qui devient central pour trouver un rendez-vous. Le site Vite ma dose, site créé par des bénévoles. Font-ils le boulot gratuitement à la place du gouvernement ? Mais je poserai la question au fondateur du site, Guillaume Rosier, qui est mon invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc une nouvelle étape dans la campagne de vaccination. Emmanuel Macron l'avait annoncé la semaine dernière. Accélération en deux temps cette semaine et ce grâce à des critères d'éligibilité élargis. Les précisions pour Europe 1 de Caroline Baudry.
Pour les plus de 50 ans, d'abord, depuis ce matin, aucune condition n'est requise pour être vacciné. La prise de rendez-vous est ouverte depuis vendredi sur Doctolib, par exemple, la plateforme de réservation la plus connue. Il suffit de renseigner son âge, un centre de vaccination ou une pharmacie. Et pour les plus de 18 ans, le calendrier est aussi avancé. Dès mercredi, après-demain, ils pourront réserver la veille pour le lendemain un créneau resté vacant. Cela correspond à 20 000 doses disponibles chaque jour, selon les créateurs de l'application Chronodose, qui recensera ces rendez-vous à saisir. Autre option ouverte à tous, se faire injecter les doses qui restent en fin de journée. Deux sites internet peuvent vous guider, Covid Antigaspi ou Covid List. Après inscription, les vaccinateurs vous contactent pour éviter que des flacons ouverts ne finissent à la poubelle.
Une accélération sur la vaccination qui coïncide avec une amélioration de la situation sanitaire. Un taux d'incidence, hospitalisation, les indicateurs s'affichent à la baisse ces derniers jours.
Désormais, moins de 5000 patients hospitalisés en réanimation. C'est encourageant, mais ce n'est pas le bout du tunnel pour autant, selon le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, Bruno Mégarban.
On ne peut pas dire que le fait d'avoir moins de 5000 patients en réanimation soit le début d'un signe de fin d'épidémie. Par contre, c'est le début d'une amélioration de la situation sanitaire. L'épidémie continue à régresser avec un nombre de nouveaux cas de contamination qui diminue jour après jour. Il est donc attendu et très probable que dans les jours qui viennent, le nombre de patients admis en réanimation se réduise encore davantage. Je crois qu'on peut aller sereinement vers une réouverture à condition, premièrement, que les gestes barrières et le port du masque soient toujours de rigueur et deuxièmement, que la campagne de vaccination de masse se poursuive. Les deux solutions conjuguées ensemble permettront d'éviter un rebond de l'épidémie à l'occasion de la réouverture des commerces, des terrasses et des lieux de culture.
Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Réouverture qui se prépare pour le 19 mai prochain. Aujourd'hui, par ailleurs, les députés se pencheront sur le projet de loi de sortie de crise sanitaire qui instaure notamment le pass sanitaire.
Il est 5h34. On l'a donc appris cette nuit, l'arrestation de deux personnes dans l'enquête sur le meurtre d'un policier à Avignon la semaine dernière.
Ils ont été interpellés au niveau d'un péage à une vingtaine de kilomètres d'Avignon alors que ces suspects s'apprêtaient à prendre la fuite vers l'Espagne. Il s'agirait du tireur et d'un complice, tous deux sont déjà connus des services de police.
La police, décidément, en émoi, car au-delà d'Avignon, ce week-end, les forces de l'ordre ont été prises pour cible à Fréjus. 3 blessés dans leur rang. Les syndicats de policiers seront reçus aujourd'hui par le Premier ministre. Ils demandent une réponse plus sévère face aux violences et à la délinquance, à l'image de David Reverdy du syndicat Alliance.
La montée de la violence n'est pas due à un contrôle sur le stupéfiant. Cet épisode hyper violent qui a quand même duré plus de 3 heures est lieu juste à un contrôle parce que des individus se trouvaient à 23 heures dehors alors que c'est interdit. Sauf que derrière, c'est un véritable guet-apens. On a 3 collègues blessés. La montée de la tension, malheureusement, elle n'est pas que dans le sud. Aucun territoire de la République n'est épargné par cette gangrène qui se croit tout permis. C'est un sentiment d'impuissance qui existe. C'est un sentiment d'impunité. Ils savent très bien qu'ils ne risquent rien pénalement. Ils savent très bien qu'il y aura toujours une excuse parce qu'ils sont mineurs. Ça fait que derrière, ils continuent allègrement. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement.
Le secrétaire national province du syndicat Alliance, joint par Laura Taouchanoff pour Europe 1. Une réponse pénale plus ferme, la demande donc de ce syndicaliste policier et l'exécutif une nouvelle fois confronté à la question de la sécurité, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, avec cette idée qu'Emmanuel Macron ne serait pas à la hauteur ni à l'aise avec les questions d'autorité et de sécurité. Un soupçon qui se base notamment sur la hausse de 25% des affrontements entre bandes sur un an. Des statistiques à mettre en parallèle avec la forte baisse des vols à main armée ou la stabilisation des homicides. Mais qu'importe les chiffres, le ressenti de l'insécurité existe et la politique fait son œuvre. Les oppositions bouffent dessus, s'agace un membre de cabinet. À l'Élysée, on reconnaît une lassitude collective après les récents faits divers, une banalisation de la violence. Il y a peut-être un problème de récit car il y a des actes, veut croire à un conseiller qui rappelle les investissements dans le matériel des policiers, les 10 000 recrutements, on remet des gens sur le terrain, plaide ce proche du président. Emmanuel Macron peut-il changer son image sur la sécurité, cet angle mort ? Au sommet de l'État, on affirme que les moyens déployés depuis 2017 finiront par payer. Mais certains macronistes réclament déjà une meilleure réponse judiciaire. Il y a un problème d'exécution de la justice, confie un proche du président. Il faut secouer plus fort, renchérit un important député.
L'analyse de Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1 est dans ce contexte. Une nouvelle tribune de militaires qui fustise la déchéance du pays a été dévoilée hier sur le site internet de Valeurs Actuelles. Une tribune signée cette fois par des militaires en fonction.
Le foot et le Paris Saint-Germain a peut-être perdu le championnat hier soir. Match nul, un partout contre Rennes.
À 2 journées de la fin, le PSG devancé de 3 points par Lille qui n'a pas chuté de son côté vendredi soir. Une équipe parisienne qui semblait presque résignée hier soir sur le terrain pour Europe 1. Julien Froment.
Des cadres décevants, une équipe fébrile mentalement et physiquement, à l'image de l'expulsion du défenseur Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain est en train lentement mais sûrement de dire adieu à son titre de champion de France. Politique de l'autruche ou foi inébranlable en son équipe, l'entraîneur Mauricio Pochettino refuse d'abdiquer.
Non, pas encore. Creo que en el fútbol las cosas pueden pasar.
Dans le fútbol, il peut se passer plein de choses. Nous sommes déçus, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on doit gagner les prochains matchs pour espérer quelque chose.
Mais les Lillois semblent intouchables, c'est l'avis de l'entraîneur rennais Bruno Genesio.
En tout cas, sur ce qu'on voit, Lille, s'ils sont champions, ils mériteront parce qu'ils ont gagné à Paris, ils ont gagné à Lyon. Ils ont fait une saison complète, c'est une vraie équipe.
Pour que Paris soit champion, il faudrait un miracle. Tout d'abord, gagner ses 2 derniers matchs et surtout espérer une défaite de Lille contre Saint-Etienne ou Angers, 2 équipes déjà assurées du maintien en Ligue 1. Rennes, Julien Froment, Europe 1.
La colère du syndicat de joueurs de rugby contre le nouveau protocole sanitaire décrété pour le top 14 et la Pro D2. Face à la recrudescence des cas, la Ligue a décidé d'imposer 3 tests PCR hebdomadaires. Sont visés aussi les entraînements et les matchs. Pas d'accolade lors des essais. Et douche à la maison pour les joueurs, quasiment inapplicable, dit le syndicat Proval.
Et l'actualité des sports complète tout à l'heure à 6h10. Ce sera avec Corinne Boulou. C'était le journal de Marion Calais. Il est 5h38 sur Europe 1. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se disputera ce Quintet. Un handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 3 ayant déclaré forfait. Arrivé respectivement deuxième et troisième d'un quintet similaire le 13 avril sur l'hippodrome de Chantilly, les numéros 7 Investor et 4 Breath of Fire méritent ici un très large crédit. Ils possèdent tous les deux des références solides dans ce style d'épreuve et à l'issue d'un parcours sans encombre, ils devraient pouvoir une nouvelle fois conclure dans les 3 premiers. L'opposition sera constituée du numéro 6, Almacado Gris, qui lui aussi reste sur une probante deuxième place dans cette catégorie le 25 mars sur le parcours qui nous intéresse, avec le numéro 1, Chaioué, très confirmé sur cet hippodrome de Saint-Cloud où il n'a quasiment jamais déçu. Enfin les numéros 2, La Roselière, 14, Glory Days, 12, Agua et 8, Shamsabad compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 4, 6, As, 2, 14, 12 et 8.
Merci à vous Thierry Léger, c'est noté et tous vos pronostics sont à retrouver sur Europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Guillaume Rosier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7 ce matin. C'est vous qui êtes derrière le site Covid Tracker qui recense tous les chiffres de l'épidémie et de la vaccination. Et vous avez aussi créé Vite Ma Dose, le site qui recense tous les créneaux, les rendez-vous disponibles. Je précise que vous êtes ingénieur et que vous avez 25 ans. Emmanuel Macron lui-même renvoie vers votre site pour trouver des rendez-vous et se faire vacciner. Vous n'avez pas l'impression de faire le travail gratuitement à la place du gouvernement ?
En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on est reconnu, y compris jusqu'au président de la République. On a fait Vite Ma Dose, qui est donc un site internet, et puis des applications mobiles qui permettent de trouver un rendez-vous de vaccination très facilement et très rapidement autour de chez soi pour les personnes éligibles. On a fait donc ces plateformes en faisant le constat que le parcours du patient pour trouver un rendez-vous pouvait parfois être complexe, long, avec de nombreuses plateformes, avec des numéros de téléphone qui répondent pas forcément. Et donc on a décidé de faire ce site internet qui regroupe tous les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de réservation et puis qui les affiche de manière claire et lisible en un seul endroit. Donc on n'a qu'à chercher sa commune. Et donc,
mais clairement, c'est un service qui est devenu central, qui est évidemment extrêmement précieux, qui est très utile et qui manquait. Vous n'avez pas du tout discuté d'un potentiel contrat avec l'État. À partir du moment où le gouvernement renvoie vers vous, c'est que vous offrez un service qui était nécessaire.
Je tiens à préciser que Vite Ma Dose est entièrement bénévole. Donc on est plusieurs dizaines de bénévoles rassemblés autour de ce projet à but non lucratif. Et puis l'ensemble du code sont open source, c'est-à-dire qu'ils sont publics, chacun peut les consulter. Et puis chacun même peut proposer des modifications de façon collaborative. Donc ça nous fait plaisir de voir qu'il est relayé, y compris par les pouvoirs publics. Et même on incite les pouvoirs publics à le relayer massivement de manière à ce qu'un maximum de monde puisse connaître cette plateforme.
Voilà, initiative non lucrative et bénévole, c'était important de le mentionner. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin parce que vous allez continuer de vous adapter aux nouvelles conditions de la vaccination. Emmanuel Macron a annoncé qu'elle serait ouverte sans limite d'âge à partir de mercredi lorsqu'il reste des doses disponibles, la veille pour le lendemain. Bah justement, vous allez créer un service qui va permettre de trouver ces rendez-vous.
Exactement, on est en train de développer une fonctionnalité qui s'appelle Chronodose. Et alors Chronodose, donc ça va être une fonctionnalité sur Vite Ma Dose. Donc il faudra toujours passer par le site web et les applications Vite Ma Dose. Et donc ça va permettre en fait d'afficher de façon très claire et très lisible les rendez-vous qui peuvent être réservés par tous les plus de 18 ans sans condition particulière d'éligibilité. Et donc ces rendez-vous seront pour le jour même et pour le lendemain. Et donc à partir de mercredi 12 mai, les plus de 18 ans pourront réserver un rendez-vous qui resterait vacant, donc qui n'a pas été pris par une personne éligible, qui serait donc vacant pour le jour même ou pour le lendemain. Cette fonctionnalité va être déployée dans les tout prochains jours sur Vite Ma Dose directement.
En général, si on se base sur les derniers jours, il reste combien de rendez-vous à cette heure-là, la veille pour le lendemain ?
C'est très dur de quantifier le nombre de rendez-vous qui restent vacants, mais l'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers. C'est probablement entre 5 000 et 30 000 rendez-vous chaque jour qui resteraient vacants. Donc ça va pouvoir permettre de vacciner quelques milliers de personnes en plus chaque jour. Et donc ça va permettre d'accélérer légèrement la campagne de vaccination. Mais en revanche, ça ne permettra pas de vacciner massivement les jeunes. Pour ça, il faudra attendre encore quelques semaines, puisque l'ouverture totale de la vaccination à l'ensemble de la population ayant plus de 18 ans est toujours prévue pour le 15 juin.
Il y aura des rendez-vous partout en France ou il y a des régions où il en reste plus que d'autres ?
Globalement, on a...
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h47 sur Europe 1. L'arrestation du tueur présumé du policier d'Avignon. Il a été interpellé hier soir avec un complice alors qu'il s'apprêtait à fuir vers l'Espagne. Les deux suspects sont déjà connus des services de police. La situation dans les rangs des forces de l'ordre au menu d'une réunion. Aujourd'hui à Matignon, Jean Castex reçoit les syndicats de policiers exaspérés par les violences. L'accélération de la campagne de vaccination dès aujourd'hui, ouverture des injections aux plus de 50 ans, sans comorbidité. Mercredi, ouverture à tous les adultes si vous réservez la veille pour le lendemain. Et puis match nul un partout entre Rennes hier soir et le PSG. Le PSG qui dit peut-être adieu au titre en Ligue 1.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1. La France. Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
5h54, Fanny Agostini est avec nous pour notre planète des initiatives positives pour l'environnement chaque matin. Et ce matin, Fanny, on va parler de nos chargeurs de smartphones notamment. C'est vrai qu'on en a un par appareil de chargeurs électriques et qu'on a tendance à les accumuler. Eh bien, ça y est, ces chargeurs, ils entrent dans l'ère du recyclage.
L'économie circulaire du câble de chargement de vos téléphones existe enfin. C'est l'initiative qui a commencé il y a quelques années avec GreenE, l'entreprise française spécialisée dans la filière de traitement des chargeurs. Grâce à un procédé de recyclage qui sépare tous les composants, l'entreprise peut aujourd'hui proposer toutes les formes de chargeurs qu'elle fabrique entièrement à partir de nos vieux câbles. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple. GreenE fournit sur son site et sur commande le sachet nous permettant de renvoyer gratuitement nos chargeurs obsolètes. De quoi prendre de nouvelles bonnes habitudes en sortant nos câbles électroniques de nos tiroirs, tout en les sortant par la même occasion de la filière des déchets.
C'est vrai qu'on en a tous au fond d'un tiroir, des chargeurs de portables qu'on n'utilise plus. Tous ces câbles électroniques, quand ils ne sont pas recyclés, ils sont soit enfouis, soit incinérés. Fanny, vous nous dites que ce matin, dans ces deux cas, le résultat est le même.
Absolument. Au bout du compte, on a des particules de microplastiques et de métaux qui se répandent dans les nappes phréatiques et dans les sols. Malheureusement, les déchets électroniques, de par leur complexité, sont parmi les déchets les moins bien recyclés par manque de filières de tri spécialisées. De plus, les câbles sont fabriqués sans le moindre métaux précieux et sont aussi facilement obsolètes. Faut dire ce qui est, un chargeur a souvent une durée de vie de moins d'un an. Ces objets n'ont pas nécessairement attiré les filières de tri spécialisées jusqu'à présent. Urgence, étant donné le deuxième problème des câbles, ils nous envahissent. Leur multiplication a un impact sur la pollution, mais aussi sur notre consommation d'énergie. Tout chargeur branché consomme de l'électricité, infime pour la facture individuelle, mais non négligeable collectivement.
Alors à quand l'application d'une économie circulaire à tous ces appareils et à ces branchements ?
Eh bien, l'uniformisation de certains objets, comme les chargeurs, serait une étape stimulante pour la filière de tri de l'électronique, parce que la diversité des câbles oblige à concevoir tout un tas de modèles. GreenE, pour le moment, réussit à produire tout type d'éco-chargeurs de smartphones pour les prises murales ou les prises de voiture, mais il y a une panoplie d'autres appareils dont elle pourra construire les chargeurs et la connectique à l'avenir. Un grand pas, donc, dans l'univers de l'économie circulaire.
Voilà, on avance sur le recyclage donc de ces chargeurs électriques qui sont tous différents et on en change à chaque fois et on les accumule. Merci à vous. Fanny Agostini sur Europe 1, 5h57.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1 en ce lundi matin. Courage, il est presque 6h. Le 5-7 continue lundi 10 mai 2021. 10 mai, voilà une date qui, dans la vie politique française, a marqué l'histoire.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
C'était il y a 40 ans, première alternance sous la 5e République. La gauche au pouvoir avec François Mitterrand, la joie des uns. Les peurs aussi, la panique des autres, la peur de voir arriver le communisme. Un tournant, c'est certain. Et maintenant, que reste-t-il de la gauche façon Mitterrand? Qui pour prendre la relève? Le regard de Julien Drey ce matin, l'un des fidèles de Mitterrand, sans concession d'ailleurs aujourd'hui sur l'état de son camp et sur les sujets sécuritaires. On en parle avec lui à 6h40. Tout rendez-vous d'ici 7h, l'innovation du jour, la revue de presse internationale. Et puis dans la partition... C'est un album majeur de la musique rock californienne des années 70 qui sera réédité en fin de semaine. La partition récit de l'album Déjà vu de Crosby, Stills, Nash & Young, c'est avec Omblin Roche et c'est à 6h20 dans une vingtaine de minutes sur Europe 1. Laurent Cabrol, on va voir les températures en chute libre aujourd'hui.
Oui, c'est une première baisse, mon cher Sébastien. J'en parlais tout à l'heure. 11 à Caen en ce moment, c'est encore raisonnable. Hein. 11 à Caen, 12 à Nantes, 14 à Paris, 15 à Lille, 16 à Besançon, 18 à Lyon, à l'heure où nous parlons, et 19 à Marseille. Vous voyez, c'est raisonnable. Mais dans la journée, déjà, on va avoir une première baisse avec des valeurs de 15 à 19 degrés en général. Et des pointes dans la baisse ou dans la chute à Paris, où nous avions 27-28 hier. Hier soir, hier après-midi. Il n'en fera que 20 aujourd'hui, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, 22 à Marseille cet après-midi aussi sur la France. Et là, nous allons perdre également 5-6 degrés. Ce matin, la pluie est là, elle longe la Loire, la région parisienne, elle est présente, le Nord, la Champagne-Ardenne, le Berry, le Limousin, autant de régions où il pleut, mais ces pluies vont s'atténuer dans le courant de l'après-midi, parce que ça, c'est la perturbation d'hier qui était sur l'ouest, et qui passe vers l'est. Donc, elle traverse la France. Je ne sais pas si vous imaginez bien ce que je veux dire. Des averses que toute la journée quand même sur le littoral de la Manche, Île-de-France et de Poitou-Charente, parce que la perturbation, quand elle sera partie, elle donnera encore des averses. Et puis, le gros de la troupe, hein, nous en parlerons tout à l'heure.
Ah, parce que ce n'est pas fini.
Ah non, le gros de la troupe, il a basculé vers l'est, comme je disais, c'est-à-dire qu'il bascule vers le delta du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, l'Auvergne, la Franche-Comté, l'Alsace et même la Lorraine. Vous voyez, toute la partie est est touchée. Alors, chers amis, on a la gauche, c'est l'Atlantique, à droite, c'est le flanc est. C'est passé de l'Atlantique au flanc est. Voilà, c'est en gros, c'est comme ça que ça se passe.
Très bien, à tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.